RGPD et e-privacy, qu'a-t-on le droit réellement de faire ou de ne pas faire en B2B? Le RGPD fait partie des marronniers du monde des affaires à tel point que cela en devient quasiment saoulant. D'une part, comme je l'ai décrit dans un épisode précédent, la protection des données n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'apanage de seuls Européens. D'autre part, à entendre les discours plus péremptoires les uns que les autres sur ce règlement, dont on a déjà vu qu'il était diversement appliqué, on croirait qu'il s'agit d'un gendarme implacable. Mais qu'en est-il vraiment en B2B? Les associations professionnelles du business to business ont toujours, depuis les débuts des règlements sur la protection des données vers la fin des années 90, su échapper aux préconisations sur l'opt-in en faisant valoir que la prospection était fondamentale pour nos métiers. S'il est compréhensible et même souhaitable de protéger le droit à la prospection, l'absence de cadre a malheureusement mené à un nombre de dérives qui, même en B2B, frise l'insupportable. Le résultat d'ailleurs, on le connaît, Jean-François Messier nous l'a décrit ici dans un article de Sparklane, 323 levées de coude pour obtenir un seul rendez-vous commercial en 2017, fermez le banc. Et je ne parle pas du nombre de messages électroniques, les résultats sont encore plus mauvais quand les pratiques sont inadéquates, précisons-le. Pour bien comprendre ce qui est et n'est pas autorisé, j'ai donc interviewé Patrick Blum, délégué général à l'AFCDP, l'Association française des professionnels de la protection des données personnelles. Celui-ci a hélas confirmé mes doutes sur le caractère faiblement contraignant de ces règlements à l'égard du B2B. Le permission marketing attendra donc encore un peu et devra se contenter des chartes d'éthique.
Des interviews, des chiffres, des faits. Des études, pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing. Notre sujet aujourd'hui, RGPD et e-privacy, qu'a-t-on le droit de faire des données en B2B? Et pour cela, nous avons interviewé Patrick Blum de l'AFCDP, l'Association française des professionnels de la protection des données personnelles. Je suis avec Patrick Blum. Bonjour Patrick, vous êtes délégué général à l'AFCDP. Qu'est-ce que c'est l'AFCDP?
L'AFCDP, c'est l'Association française des professionnels de la protection des données.
D'accord. Il manque un P, non?
Oui, mais c'est les données personnelles. C'est une association qui regroupe des délégués à la protection des données, les DPO, mais aussi des professionnels, consultants, avocats, qui s'intéressent à la protection des données dans leur activité.
Et alors, ce sont les entreprises hein, qui cotisent et qui adhèrent à votre association.
Tout à fait.
Donc, alors, vous êtes un peu les gardiens du temple de la protection des données, on va dire.
Nous fédérons les gens qui sont les gardiens du temple de la protection
D'accord.
des données personnelles dans les organismes.
Alors, ces vestales de la protection des données, si on peut dire, comment se sentent-ils? J'ai cru comprendre qu'ils se sentaient un peu seuls.
Alors, effectivement, c'est un métier où on est seul dans l'entreprise. Souvent, dans les petites ou moyennes entreprises, le délégué, il est tout seul dans son activité. Dès que les entreprises sont d'une taille un peu conséquente, ils peuvent se faire aider par des relais, des assistants. Mais c'est un métier qui est très particulier, qui nécessite des compétences à la fois techniques, il faut connaître assez bien l'informatique, mais aussi juridique, il faut bien connaître le droit, il faut aussi savoir s'organiser, être capable de faire des audits. Donc c'est un métier très transversal et qui n'est pas simple à appréhender et les délégués en général ressentent le besoin d'échanger leurs pratiques, leurs questions, et d'où l'intérêt d'une association pour les aider à se fédérer de cette façon et à avoir des échanges et de l'entraide avec les pairs.
Alors, donc, vous les conseillez sur ce sujet de la protection de données, mais ce moment de solitude que vous décrivez, il est peut-être dû aussi au fait qu'ils émettent des recommandations dans les entreprises, mais qu'elles ne sont pas forcément suivies des faits, enfin pas toujours en tout cas.
Alors, honnêtement, en majorité, les délégués sont quand même suivis.
D'accord.
Une grande majorité de nos membres disent qu'ils sont reconnus. D'ailleurs, la loi, le règlement qui a désigné, qui a permis de désigner des délégués, impose que le délégué rapporte au niveau le plus élevé de la structure. C'est-à-dire que le délégué, il est censé pouvoir s'adresser au directeur général de l'entreprise et éventuellement signaler les défauts, les anomalies, etc. En pratique, dans la vie quotidienne, il n'en réfère pas tous les jours à ce niveau-là, mais objectivement, il y a quand même une grande majorité des professionnels qui sont suivis, dont les recommandations sont suivies et qui sont écoutés. Mais il est clair que dans certains cas, il y a des conflits entre le délégué et les métiers, en particulier avec le marketing, par exemple. Les gens marketing ont envie de traiter beaucoup de données. Le délégué les met en garde contre les excès du traitement de données qui pourraient ne pas être respectueux. Et quelquefois, c'est difficile.
Et Dieu sait que des fois ça arrive, malheureusement, même si on aime bien nos marketeurs, et qui sont souvent nos lecteurs, mais qui aiment bien, châtient bien. Et justement, c'est ce que nous allons faire. Nous allons parler de la protection des données en B2B, parce que ce qui m'intéresse, qui m'intéressait de savoir, c'est pour ça que je suis venu vous voir en tant que gardien du temple de cette protection des données, c'est que quand on parle à un marketeur B2B de la prospection directe, il vous dit toujours. Ah non, 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 l'opt-in, c'est uniquement pour le B2C. Alors, j'ai voulu savoir si c'était vrai et dans quelle mesure.
Alors, effectivement, il y a deux grands mondes pour la communication électronique, parce que faut voir que la communication électronique qui traite des données personnelles, qui s'appuie sur des données personnelles, elle est régie par un texte qui est la directive e-privacy, qui a été traduite dans les lois françaises et qui n'est pas le RGPD. Le RGPD, c'est la constitution des bases de données, les traitements de données à part entière. Mais dès qu'on est sur l'utilisation des fichiers pour faire de la communication électronique, on est régi par la directive e-privacy. Et dans le cadre de cette directive, de la loi française, le résultat, c'est que quand on communique avec des particuliers en B2C, on est dans le mode opt-in, on doit demander l'autorisation aux personnes avant de communiquer. Quand on est dans le monde B2B, on est dans l'opt-out, c'est-à-dire que on peut écrire à quelqu'un dans le cadre de son activité professionnelle sans lui demander son avis préalable. Il faut respecter un certain nombre de règles, il faut qu'on s'adresse à une adresse a priori professionnelle. Alors évidemment, si on écrit à directeur général at société.com, on n'est même plus dans le cadre de la donnée personnelle, donc le
Donc
problème
là,
se
on peut
pose
faire ce
plus.
qu'on veut, quoi.
Là, voilà, c'est plus du traitement de données personnelles. On doit quand même demander, permettre aux gens de se désinscrire, mais on n'est même plus dans de la donnée personnelle. Mais si on s'adresse à Monsieur Jean Dupont at société.com, il faut s'assurer que c'est bien une adresse professionnelle. D'autre part, il faut s'assurer que la communication qu'on va lui apporter est bien relative à son activité professionnelle. Pas question de lui vendre des fenêtres ou des placements alors qu'il est le directeur informatique. Et d'autre part, il faut aussi prévoir dans le mail qu'il y ait la possibilité de se désinscrire. Le droit d'opposition
D'accord.
doit être prévu dans le courrier.
Revenons sur cette histoire d'activité professionnelle parce que, ok, donc j'ai compris, on ne peut pas aller vendre des produits grand public qui s'adressent à une personne, à quelqu'un qui n'a pas partagé son adresse email, donc de façon non sollicitée. Ça, c'est clair, il faut que ce soit une adresse professionnelle et que ce soit en rapport avec le B2B. Mais aussi en rapport avec son activité. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je n'ai pas le droit d'aller vendre des onduleurs à un responsable, j'en sais rien moi, un comptable dans une entreprise, quoi, par exemple.
Oui, logiquement. D'abord,
C'est où la limite, en fait?
c'est pas, ben, oui, mais alors, déjà, ça n'a pas tellement de sens d'un point de vue marketing, mais en plus, théoriquement, ça ne devrait pas se faire. Vendre des onduleurs à un comptable, manifestement, ce n'est pas lié à son activité professionnelle. Donc ça ne devrait pas se faire.
Alors, par exemple, quelqu'un qui vient me vendre des services de nettoyage, j'en ai beaucoup, hein, de façon non sollicitée, à moi qui suis dans un espace de coworking, c'est
Bon, c'est
pertinent de
un peu
mon
limite.
activité?
C'est un peu limite parce que si vous êtes responsable d'une entreprise ou votre propre, vous êtes auto-entrepreneur, le vendeur de ménage, il ne peut pas savoir quelle est la nature de votre entreprise. Et donc, le fait de vous proposer une prestation de nettoyage, on peut sans doute considérer que ça reste dans une offre acceptable dans le domaine professionnel. On
D'accord.
propose à un entrepreneur du nettoyage.
Bon, on est un peu dans la zone grise, quoi. En
C'est un
fait,
peu
c'est
dans la zone.
pas,
Oui, voilà,
ouais,
c'est un peu limite.
c'est pas très facile de décider quand
Ben
ça
oui,
allait et quand ça allait
évidemment.
pas. Donc finalement,
Bien
c'est un
sûr.
peu un feu orange, votre truc. Tout le monde passe au feu orange en disant qu'il est vert.
Y a sans doute un peu de ça.
D'accord. Et
Et
est-ce
alors,
qu'il y a, donc il y a une troisième obligation, si j'ai bien compris. Et alors celle-là, elle n'est quasiment jamais respectée. C'est le lien à l'intérieur du mail qui soit un lien explicite. Donc
personne n'est
explicite,
inscrit.
ça veut dire pas un lien
Oui.
blanc sur un fond blanc.
Voilà, il faut qu'il.
Voilà.
Alors, il n'y a pas une règle écrite. Enfin, je connais plus bien les textes par cœur, mais je ne pense pas qu'il y a une règle qui dise explicitement comment doit être écrit le lien des inscriptions. Mais il est clair que il faut être de bonne foi. Mettre un lien des inscriptions qui est en blanc sur blanc ou qui se trouve 25 pages plus bas avec du blanc en bas de la page, comme je l'ai déjà vu. Où il faut descendre très très loin pour le trouver, il est clair que ça n'est pas de la bonne foi de la part de l'émetteur. Et en cas de litige, on serait pas reconnu dans son droit de faire ce genre d'entourloupe. C'est du même ordre que d'écrire des contrats avec des lignes en corps 3.
Oui, des
Où il
petits
faut une loupe
caractères.
pour les lire. C'est
Il y a
de
des
la même nature.
Alors, il y a des petits malins qui sont encore plus forts que ça. Ils enlèvent le lien de désabonnement et ils vous mettent de façon aussi sibylline et illisible, effectivement, tout petit, que pour se désabonner, il suffit, bien entendu, d'écrire une adresse, etc., etc. C'est
Alors,
légal,
si
ça?
je ne me trompe pas, le fait d'écrire en voie électronique, il me semble qu'on doit obligatoirement proposer un désabonnement sur le même mode. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se désinscrire de manière électronique.
Sans avoir à demander à
Sans
quoi que ce soit, à qui que ce soit, et surtout
sans être obligé de dépenser un timbre pour écrire une lettre.
et sans avoir à attendre non plus 24 heures ou 48 heures comme on le voit souvent. Ça veut dire que dans ce cas-là, ça veut dire que c'est fait manuellement.
Oui, ou que c'est fait toutes les nuits par un automate. Hein.
Oui.
Bon, moi, quand on me dit ça sera fait dans 24 heures, ça ne me choque pas trop si c'est
D'accord.
vraiment fait dans 24
D'accord. Bon, ça doit être moi. Moi, ça me met dans des rages folles.
heures. Mais vous êtes très exigeant.
Ah, je suis très exigeant. Nous aimons le
Vous avez
permission
raison, vous avez
marketing
raison.
ici. Et dernier point, est-ce qu'il y a une loi contre les casse-pieds? Ben, malheureusement, il n'y en a pas. Et notamment les gens qui sont agressifs et qui commencent leur message. Vous savez, en fait, ce n'est même pas des gens, d'ailleurs, ce sont souvent des robots qui vous écrivent. Comment vous n'avez pas vu mon mail? Comment vous n'avez pas lu mon mail et vous n'avez pas répondu, mais vous allez répondre? Et qui renvoient un mail sur un mail sur un mail sur un mail.
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de texte qui
Pas de
régisse la
texte.
façon dont on écrit au
D'accord.
client ou au prospect. Il y a juste une loi qui dit qu'on doit pouvoir se désinscrire, donc on doit avoir le droit de ne pas être relancé, puisqu'on peut se désinscrire.
Oui.
Par contre, je pense que la meilleure loi contre ça, c'est la loi du bon sens et du commerce. Si on est agressif avec le client, il y a des chances pour que le client ne revienne pas ou qu'il ne vienne pas.
Oui. Ah, on le comprend, effectivement. Je peux dire d'ailleurs tout de suite à tous les vendeurs de nettoyage du monde que ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages. Je ne répondrai pas. Ou pire, je ne serai pas très poli non plus. Mais justement, quel est le recours du pauvre
marketer celui qui est du côté de la réception des messages? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et est-ce qu'on est dans le cas où le gendarme n'est pas sur le terrain et finalement ne peut pas dresser le procès-verbal? Parce que
Alors,
finalement, on ne peut rien faire, c'est un mot.
le recours ultime, c'est la plainte auprès de la CNIL.
Et ça fonctionne, ça?
Alors, c'est difficile. La CNIL est, d'abord, on sait, hein, la CNIL, elle a les moyens qu'elle a, et elle a une activité, elle a des obligations qui sont très au-delà des moyens, dont elle dispose. Donc, elle est obligée de s'organiser et de traiter les urgences. Si vous êtes tout seul à vous plaindre de la société XY, il y a des chances que la CNIL ne puisse pas faire grand-chose parce que bon, elle va voir votre plainte et elle va la mettre de côté. Par contre, si la société XY fait l'objet de plaintes répétées et nombreuses, au bout d'un moment, la CNIL va s'en apercevoir dans ses plaintes, elle va s'apercevoir qu'il y a une accumulation de plaintes auprès d'une même entreprise, et là, elle va diligenter des actions, soit des contrôles, soit même directement des actions contre l'entreprise. On sait qu'il y a régulièrement des entreprises qui se font épingler par la CNIL. Dans certains cas, ça peut faire très mal, hein. On commence à voir des amendes assez importantes. Mais la CNIL va commencer en général par écrire à l'entreprise en disant on a beaucoup de plaintes, est-ce que vous pouvez nous dire de pourquoi et nous donner des explications. Si dans l'entreprise il y a un délégué à la protection des données, il sera également informé. Et c'est à lui qu'on demandera si il peut y avoir des explications et si on peut régler le problème.
Et pourtant, si mes souvenirs sont bons, j'espère que ce n'est pas un de vos adhérents, chez Carrefour, quand même. Là, on ne parle pas du vendeur de savates du coin, hein. On parle de gens qui ont pignon sur rue. Ils se sont fait épingler pour leur manque de transparence et leur manque de respect des règles. D'ailleurs, je pense que c'était sur le lien de désabonnement. Et pour en être adhérent aussi, je confirme. Il y a un gros problème. Bon, ils n'en abusent pas, hein, franchement. Mais bon, quand même, il y a des manquements à la règle
Bien sûr,
et qui sont
c'est
énormes.
une difficulté, hein. Faut bien voir que, alors, il y a énormément de situations dans une entreprise. Il y a des sites web, il y a dans tous les coins, il y a des emailing qui partent dans tous les sens. Il est évident que c'est très compliqué de s'assurer que tout est conforme. Quand il y a un délégué à la protection des données qui est là, il essaye de réguler, de contrôler, d'auditer, mais il peut y avoir des choses qui passent à travers les contrôles, ça c'est inévitable. Et bon, c'est des choses qui arrivent, même quand il y a quelqu'un qui veille au grain. La question après, c'est de savoir si la CNIL regarde aussi la posture de l'entreprise. Hein. Si on est dans une démarche d'être le plus régulier possible, de se mettre en règle dès qu'on a une alerte, que la CNIL constate qu'on fait le maximum pour corriger, elle est évidemment moins virulente que si on y met plus de mauvaise foi.
Alors, en
C'est clair
conclusion,
que
oui.
les risques existent toujours d'avoir une faille dans le respect de la conformité.
Très bien. En conclusion, si je comprends bien, les règles sont claires et elles sont même plutôt laxistes, enfin, pas très contraignantes, on va dire.
Sur ce domaine
Voilà.
du mail B2B, les règles sont plutôt souples.
Souple, voilà. Et comme alors, dès qu'on va aller sur le SMS et les appels téléphoniques et je passe sur les robots vocaux, alors là, ça devient complètement nébuleux. Mais bon, ok. Bon, c'est. Mais enfin, il y a des règles. Elles sont claires. Elles sont relativement peu respectées, même si on n'a pas de chiffres pour l'expliquer. Enfin, pas beaucoup, sauf si vous en avez.
Alors, moi, je n'ai pas de chiffres. Je ne dirais pas qu'elles sont peu respectées. Moi, ce que je reçois comme mail professionnel, je trouve que c'est plutôt. Moi, je trouve qu'il y a plutôt une bonne proportion de respect suis pas comme, enfin, je suis pas dans le même cas que vous, apparemment. Je vois plus de liens de désinscription que vous n'avez l'air d'en voir.
Oui, je
Et
suis
ça
sans
dépend
doute.
peut-être de la nature des prospecteurs.
Oui, vous ne devez pas être dans l'œil du cyclone des prospecteurs sur LinkedIn, je pense. Vous avez,
Ah, c'est possible.
ils ont dû vous oublier. Oui. C'est mais c'est dommage parce que vous avez raté quelque chose. Donc, en gros, OK, les règles sont plutôt respectées, sauf pour les mails que je reçois. Donc, je suis le seul. C'est une bonne nouvelle. Et finalement, les voleurs peuvent continuer à circuler, il n'y a pas de problème.
Je dirais pas tout à fait ça, mais les voleurs ont intérêt à se faire discret et à pas être trop virulents dans leur activité.
Disons que l'étau se resserre peu à peu, peu à peu.
Très
Voilà.
clairement.
Et on
Sans
a.
oublier que la fameuse directive e-privacy va être bientôt remplacée par un règlement
D'accord.
qui sera donc beaucoup plus
Contraignant.
rigoureux, puisque ça sera un texte européen qui sera le même dans toute l'Europe,
D'accord.
ce qui n'est pas le cas actuellement.
D'accord. Et donc, du coup, on aura plus de gendarmes aussi, enfin, gendarmes au sens, comment dire, métaphorique du terme, pour surveiller tout ça, parce que la CNIL, ils sont combien? Une dizaine pour faire tout ça? Quinzaine, peut-être?
Oh non, l'ensemble de la CNIL, ça doit être pas loin de 150 personnes
Oh,
aujourd'hui.
d'accord.
Il
Enfin, ça
y a du
reste
monde à la CNIL.
modeste.
Et c'est, voilà, c'est pas l'autorité la plus mal lotie en Europe, hein.
D'accord.
La CNIL irlandaise, qui est chargée de gérer tous les GAFA, en gros, ils sont une vingtaine de personnes, je crois,
Ouais.
et eux, pour le coup, ils sont très mal vus parce qu'ils n'ont pas les moyens
Oui.
de répondre à la demande.
Sans vouloir défendre les GAFA, eux n'envoient pas de mails non sollicités, ça n'a jamais fait, ça ne se
Non.
fera jamais, contrairement à ce qu'on dit. Voilà. Bon,
Voilà, ils font d'autres choses. Ils font
ils font
d'autres
d'autres
choses.
choses, oui, on pourrait discuter, il y a beaucoup d'anti-américanisme en France. On va, eh ben, écoutez, merci Patrick, les choses sont
Je vous en
claires,
prie.
nous sommes sur la bonne voie, ça se durcit un peu. Et puis finalement, ce qu'on peut recommander à nos marketeurs, c'est, quelle que soit la loi, de respecter l'éthique et de respecter les utilisateurs toujours, et de, si le
Absolument.
nécessaire, de leur envoyer une invitation pour s'inscrire, mais de toujours bien respecter les règles qu'on vient d'édicter et qui sont simples et finalement pas très contraignantes.
Tout à fait.
Des interviews, des chiffres, des faits. Des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.